Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Il y a eu un été marqué par l'affaire Benalla, puis une rentrée volontariste malgré les vents contraires d'une croissance qui plafonne, d'un chômage qui reste élevé, puis la démission fracassante de Nicolas Hulot à la radio, puis celle non moins fracassante du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans le journal, et le remaniement qui dure depuis 10 jours et qui va sans doute en durer une dizaine. Et de la part de l'exécutif, toujours la même réponse, tout se passe normalement, le gouvernement est au travail, voire à l'initiative, il n'y a pas de crise, tout est sous contrôle. Cela peut surprendre, mais c'est assumé par Emmanuel Macron pendant que ses sondages plongent. Se rend-il service? N'est-il pas en train de devenir son propre meilleur ou pire ennemi? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Jean-Sébastien Ferjou, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur et directeur de la publication du site Atlantico. Et Jean-Philippe Moinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la revue civique et chroniqueur pour le HuffPost. Je vous pose la question à vous, observateur avisé de la vie publique, on va essayer de se mettre d'accord sur le constat. Est-ce que tout est normal et sous contrôle aujourd'hui au sommet de l'État comme le martèle l'exécutif, Jean-Sébastien Ferjou?
Je ne sais pas ce qu'est la normalité en politique, à vrai dire. Si on regarde les derniers quinquennats avant ceux d'Emmanuel Macron, il me semble que la vie politique connaît quand même pas mal de soubresauts. Maintenant, il y a deux récits parallèles, regardez, parce qu'il y a une autre... Effectivement, les sondages sont mauvais pour Emmanuel Macron. Effectivement, il y a cette espèce de psychodrame autour du remaniement. Mais le grand paradoxe, c'est que dans le même temps, il y avait une mobilisation hier des retraités dans les rues et qui a été peu suivie. Pourtant, ça entre en résonance avec l'une des critiques principales qui a été formulée par l'opposition en disant, et notamment par les Républicains, en disant « vous attaquez aux retraités ». On a même vu justement Emmanuel Macron face à des retraités. Il y a cette espèce d'énorme paradoxe, effectivement, entre un Emmanuel Macron qui n'a pas de véritable opposition, qui parvient à se structurer, avec des Français qui sont un peu attentistes, et puis, effectivement, une crise intérieure du gouvernement. C'est pas une crise politique au sens où on connaîtrait une situation à la belge ou même à l'allemande.
C'est pas une crise institutionnelle, en tout cas.
Non, il a pas fallu des semaines. Là, la question n'est absolument pas similaire à celle qu'a pu connaître l'Allemagne en mettant des semaines avant de réussir à créer une nouvelle coalition, pour gouverner la France. Emmanuel Macron, il a toujours une majorité. Comme il l'a dit aux États-Unis dans une interview à Bloomberg, il me semble, il a la chance, contrairement à Donald Trump, de pas avoir d'élection de midterms. Donc il n'y a pas de crise politique de ce point de vue-là. Maintenant, il y a incontestablement un trouble politique qui, je pense, se joue autour de la personne du président. Et c'est d'ailleurs la question que vous posez. Est-il en train de devenir son mauvais ennemi? Je pense que la fin du quinquennat va être assez largement psychologique, autant que politique. Et des dérives comme celles qu'on a pu voir ces derniers jours avec Michel Onfray, par exemple, le montre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à attaquer vraiment la personne du président plus
en dessous
que
de
sa politique.
En dessous de la ceinture un peu, oui.
Non mais exactement, c'est pour ça que j'ai parlé de dérive. Mm-hmm. Mais c'est lui qui devient le cœur des enjeux. Mais finalement, c'est une lumière crue qui est jetée sur ce qu'a été le macronisme. Il y a une espèce d'épopée fantastique pendant l'élection présidentielle, peut-être d'hypnose des Français. Et ben là, on voit que c'était le système d'un homme et que derrière l'homme, il n'y avait pas forcément une offre politique qui était si précisée que ça.
Jean-Philippe Moinet, pour vous, il y a crise ou il n'y a pas crise? Est-ce que, comme le laisse entendre un petit peu Jean-Sébastien Ferjou, Emmanuel Macron est en train de devenir la poupée vaudou des Français?
Poupée vaudou, je ne pense pas, on n'en est pas là. Il y a effectivement des choses qui se passent en protestation de surface de l'opinion, mais il n'y a pas de crise majeure, au sens où la démocratie française est plus solide qu'elle n'y paraît. Et surtout, nous venons de fêter les 60 ans de la Ve République et on a vu dans le passé des 60 ans des soubresauts beaucoup plus importants. Souvenons-nous l'opposition frontale, le général de Gaulle, François Mitterrand et son coup d'État permanent, lui-même qui s'est 30 ans ensuite moulé dans les habits du général de Gaulle en arrivant au pouvoir et finalement étant figé dans une statue de sphinx. Donc on a une Ve République qui a beaucoup de défauts, mais qui a pour qualité la stabilité. Et Emmanuel Macron l'a très vite compris, d'ailleurs, dès le printemps 2017, en tranchant avec la présidence dite normale de François Hollande.
Oui, on donne un petit peu de pompe.
Surjouant peut-être le surplomb. Mmh. Mais je pense qu'on est dans une culture française monarcho-républicaine qui a besoin de cette verticalité. Alors, c'est une particularité et singularité de la France, jacobine, bonapartiste, et il y a ce style et cette posture qui est conforme à cette culture française. Alors on peut la critiquer, elle est critiquée, mais est-il son propre meilleur ennemi? C'est une bonne et drôle de question qui n'épargne pas d'ailleurs à Emmanuel Macron les assauts de l'opposition sur le fond. Je pense qu'il a peut-être beaucoup de défauts, mais s'il avait que ça, ça serait bon pour lui pour 3 ans et demi qui restent.
Le problème qui se pose à lui sur la verticalité qu'il a voulu incarner, c'est qu'il est le premier à ne pas l'incarner. C'est-à-dire qu'il a beaucoup discouru. C'est pas seulement, il ne l'a pas seulement montré. Il a lui-même théorisé le sujet en parlant de présidence jupitérienne, en nous expliquant jusqu'à plus soif qu'il ne serait pas François Hollande et que lui, contrairement à ses prédécesseurs, à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande, serait capable de maîtriser ses instincts et de maîtriser la personne privée, le corps privé du président en quelque sorte, pour incarner avec majesté la fonction, ce qu'il a incontestablement su faire dans un certain nombre de circonstances. Le problème, c'est qu'il montre aussi toutes ces images où précisément il donne l'impression de ne pas se maîtriser. Parce que quand on nous explique ces dernières semaines qu'Emmanuel Macron part à la reconquête des Français et que ça se traduit par cette espèce de photo extravagante aux Antilles, ou indépendamment de ce que chacun a
pu voir...
Sur
une heure et demie de bain de foule.
Comment ?
Sur une heure et demie de bain de foule.
Oui, mais Jean-Philippe, je pense que vous savez comme moi qu'un président, il a normalement dans son équipe des personnes qui lui évitent ce genre de situation. Jamais Claude Chirac n'aurait permis que son père se retrouve sur une situation de cet ordre-là.
Ce qui a isolé Jacques Chirac au pouvoir.
Ça renvoie, je suis pas certain qu'Emmanuel Macron soit beaucoup plus proche des Français. Ça renvoie à cette espèce de personnage capricieux, ça renvoie à l'affaire Benalla, ça renvoie à la manière dont il a structuré l'espace autour de lui.
Est-ce que c'est
et
pas
surtout le pire, c'est que sur cette photo, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait un président qui n'était plus le président. Mmh. C'était plus lui qui avait le contrôle sur la photo. Même chose, il va à Colombey, il s'adresse à des retraités, et puis il leur dit vous feriez mieux d'arrêter de vous plaindre, le pays serait mieux tenu.
Donc, citant le général de Gaulle d'ailleurs.
Mais est-ce que c'est difficile, quand on n'a pas tout à fait 40 ans, de se mettre dans le costume du général de Gaulle?
C'est sans doute pas facile, et c'est pas forcément un objectif principal d'ailleurs, mais enfin c'est quand même, on voit bien dans ses références...
La célébration du 60e anniversaire de la 5e République.
On voit bien que ça l'habite.
La croix de Lorraine est présente sur le sigle de l'Élysée maintenant, on voit qu'effectivement il y a quelque chose.
Non, il y a une inspiration, Colombey les deux églises, il va prochainement célébrer l'anniversaire de la mort du général de Gaulle le 9 novembre, si je ne m'abuse.
C'est ça.
C'est une référence qu'il a en tête, évidemment, et qu'il a en perspective, d'ailleurs, pour l'avenir, mais sur le sujet de la proximité ou de l'éloignement. Les mêmes à l'extrême droite de notre échiquier politique ne cessent de pilonner la critique sur le thème de l'arrogance, de l'éloignement des Français, de cette élite énarchique, et les mêmes considèrent que quand il va au contact volontaire des Français, y compris aux Antilles, avec le risque que ça comporte en termes d'image, je ne sous-estime pas les risques, mais il les a assumés. C'est-à-dire qu'il veut le contact, il aime le contact, avec les risques que ça comporte, et les mêmes qui critiquent la distance et critiquent la proximité avec des rappeurs des Antilles sont pour le moins incohérents, me semble-t-il.
Des braqueurs, Jean-Philippe, c'est pas exactement la même chose.
Des repris de justice.
Que des rappeurs. Mais
oui, peut-être avec une prétention artistique, c'est possible.
Et alors, c'est une partie du peuple. Donc, je pense que cette volonté de provoquer le contact fait partie de sa tactique, d'ailleurs, peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, elle est volontaire. C'est le contact avec les Français. Sur le sujet de Colombey les deux églises, Jean-Sébastien, que vous avez évoqué, il citait le mot du général de Gaulle, la France se tiendrait mieux si les Français ne se plaignaient pas. Et donc il a ajouté...
Ça ne m'a pas échappé qu'il le citait, puisque lui-même a dit qu'il était en train de le citer et que le petit-fils du général de Gaulle venait de lui rappeler alors qu'il visitait la boisserie.
Et il rajoutait une chose importante qui était dans la séquence de cette confrontation avec les retraités. La France et les Français ont beaucoup de chance. C'est d'ailleurs le premier pays au monde attractif en termes de tourisme, il faut le rappeler, et beaucoup de chance aussi parce que il y a 60 ans, il évoquait 1958 les fonds baptismaux de la 5e République en parlant d'un pays en guerre d'Algérie. Mais le niveau de vie était bien inférieur, le niveau de santé, n'en parlons pas à l'époque. Mettons dans le contexte et évitons les polémiques sur ces bouts de phrases qui sont tirés de leur contexte. Et je pense qu'il le fait volontairement pour consécuter les corps intermédiaires.
Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il le qu'il le fait volontairement. En revanche, je ne pense pas qu'il s'agit d'une polémique marginale. Je pense qu'il s'agit de l'erreur politique fondamentale d'Emmanuel Macron. Il ne comprend pas le moment historique qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, c'est très perturbant parce que parfois, il donne l'impression que si. L'année dernière, il avait fait sa rentrée beaucoup mieux maîtrisée dans une interview dans Le Point, je ne sais pas si vous en souvenez, dans laquelle il disait qu'il était peut-être le dernier des Mohicans et qu'on était à un moment de changement de civilisation. Donc, par moment, il a ce genre d'instinct-là. Et après, il oublie totalement. C'est-à-dire que la grande inquiétude des classes moyennes occidentales, qui même si en France elles sont plus protégées qu'elles ne l'ont été ailleurs grâce au système social français, la grande inquiétude de disparition des classes moyennes occidentales, il ne le comprend pas. Emmanuel Macron fait partie des 20... Je vous dis la grande inquiétude. Je ne parle pas de la réalité, je parle de la perception.
La perception du grand remplacement, la disparition.
En communication, la perception.
Mais ça n'a rien à voir, le grand remplacement.
C'est un peu des exagérations de mots.
La perception
n'est pas une exagération. Mais ça n'est pas une exagération.
Disparition.
Non, mais pardon, il faut travailler un peu. C'est pas une exagération.
Travaille, excusez-moi.
Oui, mais je n'en doute pas une seconde. Mais sur les chiffres précis, regardez les chiffres sur quels sont les revenus des classes moyennes. Alors après, vous me dites, les classes moyennes, c'est une réalité statistique. Oui. Sauf que si vous regardez ce qu'étaient les classes moyennes il y a 30 ans ou 40 ans par rapport aux revenus médians à ce qu'elles sont aujourd'hui, il y a un rétrécissement incontestable. Emmanuel Macron, il est dans la posture...
Pas disparition.
Oui, mais c'est juste que je vous parlais de l'angoisse de la disparition.
Oui, après, on sait l'instrumentalisation des angoisses par ceux qu'on connaît très bien, qui instrumentalisent toutes les peurs de disparition de la France.
Alors, n'ayons plus de débat, puisque
parlons des choses réelles, pas de disparition, de rétrécissement.
La chose réelle, c'est la connerie d'Emmanuel Macron, pardon, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, politique en com, j'entends, en disant ça, parce qu'il n'est pas capable de comprendre que l'expression d'une inquiétude, ça n'est pas une plainte. Et que quand il dit à cette brave dame qui gagne 500 euros par mois que si elle se plaignait moins, la France se tiendrait mieux. Bah oui, mais c'est quand même ce qu'il lui a dit. C'est pas moi qui ai écrit les discours du président de la République. Pardon, mais hier, il était à la station F. Il était face à des start-upers. Et là, il était très cool. Comme dans l'échange avec le chômeur, le fameux horticulteur. Il était un peu dur avec le jeune horticulteur en question. Puis après, il y avait une autre partie à la vidéo. Il parlait à quelqu'un qui lui expliquait qu'il voulait être énarque. Et là, il était à nouveau très cool. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des gens avec lesquels, alors là, où même s'ils sont d'anciens braqueurs, ce sont des enfants de la République. Alors là, il est cool avec eux.
Ils ont purgé leur peine.
Mais il y en a d'autres. Mais je vous dis pas l'inverse, je vous dis pas qu'ils ne doivent pas leur adresser la parole.
Ce sont des sous-citoyens, selon vous. Voilà.
Il y a une différence entre parler aux gens et les enlacer. Il me semble qu'elle n'échappera à personne et je ne dis absolument pas qu'il ne fallait pas leur parler.
Oui, allez-y, Jean-Philippe.
Un vrai sujet qui est il ne comprend pas le sens de l'histoire. Ça, c'est la grande thèse affirmée par certains. Je pense qu'il comprend très bien une chose que les Français comprennent majoritairement, c'est que le dépassement du clivage gauche-droite et d'actualité sera futur sur des grands sujets. L'Europe... Le libéralisme ou l'étatisme, on voit aussi que ça traverse les familles politiques traditionnelles. On voit qu'il y a une partie de la droite qui est tentée par l'étatisme et une partie du centre-gauche qui est tentée par le social-libéralisme. Donc, ça montre que le clivage d'antan des vieux partis n'existe pas. Sur l'immigration compris, à droite ou au centre, on trouve des tenants d'une politique de semi-ouverture et d'intégration réussie. Et à la gauche de la gauche, on trouve, notamment en Allemagne, mais pas seulement, des tenants d'une fermeture pour ne pas laisser, entre guillemets, concurrencer l'espace populaire par l'extrême droite allemande
ou française.
C'est vrai
que c'est une question qui se pose aussi donc, à la gauche de la gauche française.
Je pense qu'il a compris, il a compris une chose, et il est pour ça qu'il a été élu, c'est que les clivages historiques et traditionnels n'ont plus la force qu'ils ont en termes de réalité
revenir.
Il est en train de rattraper l'écologie.
La conciliation entre écologie et économie, on voit bien que c'est pas ni de droite ni de gauche, c'est pour tous les citoyens.
Sur ces sujets, on voit qu'il avance
en termes de réforme. Et ce qui est très symptomatique, pour finir là-dessus, c'est que le débat se focalise sur la personne, le style, la posture, et pas sur le fond, ce qui laisse un peu d'espoir à ses partisans sur les réformes qui ne font manifestement pas beaucoup de débats contradictoires.
Jean-Sébastien Ferjou, c'est une question de style. On lui reproche de l'arrogance dans l'opinion. C'est quoi le message de l'opinion dans cette baisse des sondages? Comment vous l'analysez, vous? Est-ce qu'on est en train de demander à Emmanuel Macron de descendre un petit peu de l'Olympe?
Je pense que les Français, et c'est le grand paradoxe que je vous exposais tout à l'heure, il n'y a pas de protestation sociale de masse, c'est-à-dire il n'y a pas de contestation, à vrai dire, absolue de la ligne politique suivie par le gouvernement. Il y a la contestation de l'attitude du président de la République et peut-être aussi de la direction qu'il recherche. Et pour aller au bout de ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, ce qu'il ne semble pas comprendre, c'est qu'il y a 20 à 30% de la population qui bénéficie de la mondialisation, qui bénéficie de la numérisation. Et tant mieux, on a besoin d'être des sociétés dynamiques et je suis profondément libéral. Donc que vous n'avez pas à me faire dire que je voudrais que ce soit différent. En revanche,
dynamique,
il a de la peine à intégrer émotionnellement l'idée. Il le comprend rationnellement. Je ne doute pas une seconde qu'il le comprenne. Il est très intelligent. Il a de la peine à intégrer émotionnellement l'idée que si lui voit la situation comme le surfeur, vous savez, qui est en haut de la vague, il ne comprend pas que la retraitée à laquelle il s'adresse, elle est, elle, dans la situation où elle voit la vague lui arriver dessus. Mmh. Elle voit le tsunami. Et ça, politiquement, il me semble que la posture du président de la République en France, et notamment avec ce que génèrent les institutions de la Ve République et la forte présidentialisation, qui fait que le président est vraiment la clé de voûte du système, il ne comprend pas qu'il faut qu'il entende cette inquiétude-là aussi. Pas pour la flatter, pas pour l'encourager. Parfois, il est bon de savoir exprimer un certain nombre de vérités, mais ça n'est pas non plus en disant aux gens ou en les renvoyant et en les culpabilisant en permanence que vous construisez quoi que ce soit. Et c'est là le grand paradoxe, c'est qu'il est en train de gâcher une donne politique en or. On aurait pu être un nouveau 1958 et il est en train de créer la propre impuissance de son quinquennat.
Est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un mode de fonctionnement ? Le petit commando qui avait brillamment pris le pouvoir a-t-il du mal à s'adapter à la machine de l'État ? Ou inversement, est-ce que l'État a du mal à s'adapter au petit commando?
C'est peut-être un peu les deux. Il y a une transformation mutuelle, j'allais dire. C'est-à-dire que l'équipe de départ, qui n'était pas une grande expérience, se transforme aussi par l'apprentissage de la vie publique. Et inversement, la machine étatique française, on le voit bien, doit s'adapter aussi à des temps modernes. Et on sait qu'on a quelques archaïsmes dans notre machine étatique. Donc ça, c'est une réalité. Et pour répondre à votre question sur la conjoncture de l'été, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans une sorte de normalité. C'est-à-dire que Emmanuel Macron rentre dans les niveaux de popularité ou d'impopularité qui étaient comparables à 18 mois de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'il ait duré assez longtemps au-dessus de cette moyenne-là, y compris pendant la crise. Ce qui était considéré comme une crise insurmontable, la réforme de la SNCF. Il y a eu quand même 3 mois de grève et manifestement, les Français ont souhaité cette réforme et ça lui a pas été porté négativement en termes de popularité. Donc il y a finalement une normalité qui arrive, le réveil des oppositions, qui sont plurielles, éclatées, pas toujours crédibles, parce qu'elles sont éclatées. Donc on ne voit pas quelle est l'alternative pour le court terme et le moyen terme, peut-être, face à Emmanuel Macron, ce qui permet à Édouard Philippe de prendre son temps, d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, pour recomposer son gouvernement et peut-être aborder les Européennes dans une posture plus favorable.
Alors, ce remaniement, justement, 8 jours, ça sera probablement au moins 10. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de temps, Jean-Sébastien Ferjou? On ne se bouscule pas au portillon pour rentrer au gouvernement?
Je pense qu'il y a une difficulté. Il y a deux choses. Il y a le fait que, voyant la difficulté, Emmanuel Macron, et c'est son caractère, et pour le coup, ça peut être une stratégie de communication parfaitement valable, parce que je pense pas que les Français ne dorment pas la nuit parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Encore une fois, comme je vous le disais au début,
les gens n'en parlent pas dans
les
rues.
On n'est pas dans une situation comparable à la Belgique ou à l'Allemagne. Le gouvernement fonctionne. Donc il n'y a pas d'enjeu d'urgence, en tout cas. Donc il l'assume de ce point de vue-là. Maintenant, je pense que le gouvernement est confronté à une difficulté de profondeur stratégique, mais qu'elle est liée à la nature même de la République en marche. Pour le coup, ça n'est ni une qualité ni un défaut, c'est juste une réalité factuelle. Ça n'est pas un parti qui existe depuis 30 ans ou 40 ans, et Emmanuel Macron, au cours de son parcours politique, n'a pas rencontré, puisqu'on parle de ministre de l'Intérieur, je sais pas quoi, le grand flic ou le grand spécialiste de l'Intérieur
Peu de généraux, ou peu de maréchaux comme Napoléon.
Et je pense par ailleurs qu'il y a une nouvelle difficulté qui est en train d'apparaître et qui est la différence entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Je pense que le président n'a pas beaucoup apprécié de voir que les commentaires qui s'étaient faits ces dernières semaines avaient plutôt souligné qu'Édouard Philippe s'était moins abîmé que lui ces dernières semaines. Et surtout, il y a deux visions politiques assez différentes. Je pense qu'Emmanuel Macron voulait continuer à aller vers quelque chose d'assez technique, là où Édouard Philippe a quand même peut-être un peu plus d'expérience politique. Mais ça, ce sont deux visions stratégiques différentes. C'est-à-dire que c'est pas sur la ligne politique en tant que telle. Édouard Philippe veut pas mener une politique plus à gauche, plus à droite, ou je sais pas quoi. En revanche, il ne veut pas les mêmes gens pour porter ce qu'il porte.
Il y a un peu de tiraillement entre le Premier ministre et le Président de la République.
Sur l'essentiel, je ne pense pas. Il y a un moment intéressant actuellement où on voit bien que Emmanuel Macron, notamment, joue, voire surjoue, le laisser le temps au temps. Il veut montrer...
On le voit se balader sur les quais de Seine, en rentrant pendant que tout le monde attend le remaniement.
Avec l'enjeu stratégique évoqué Jean-Sébastien à l'instant, sur composer des alliances complémentaires pour tenter d'aller à une séquence 2 de la recomposition politique. On va voir ce qui va en résulter vendredi soir ou samedi matin, avec des nouveaux arrivants du côté droite ou côté gauche, ou et droite et gauche en termes d'alliance nouvelle, en tout cas de nouveaux arrivants, pour préparer encore une fois l'enjeu des européennes de 2019.
Merci Jean-Philippe Moinet, merci à vous également Jean-Sébastien Ferjou, merci d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applis mobiles. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.